top of the wire. Let me say, le bel ensemble, c'est possible maintenant. L'amour et le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 juin 2023, a adopté la position de sticker par les commissaires de justice sur les actes qu'ils produisent, l'extension des activités de la SOTRA et la réglementation de la profession boulangère. Dans cette édition, le compte-rendu de Carlos Okwande. Le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises de l'Université Félix Houphouët-Boigny ou Japan Corner a été ouvert officiellement récemment. Eh bien, l'apprentissage de la langue et de la culture est en vue. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, voisin, 18 morts, dont 4 militaires, dans une attaque terroriste dans la région du centre-est du pays. Carlos Condé passera en revue les titres des journaux ivoiriens de jour et puis en fin d'édition. Ce roi Adam se recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction Dr. Brou, John G. Emmanuel, enseignant-chercheur en économie à l'Université Alassane Ouattara de Boaké pour parler des conséquences du surendettement sur le développement économique de 21 pays africains. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 juin 2023. Eh bien, la position de sticker par les commissaires de justice sur les actes qu'ils produisent et l'extension des activités de la SOTRA, sans oublier la réglementation de la profession boulangère, étaient entre autres quelques mesures adoptées. On en parle avec Carlos Condé.
Il est désormais fait obligation aux commissaires de justice d'apposer un timbre sticker sur les documents qu'ils produisent. Des précisions avec Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement.
Cette mesure vise à assurer la sécurité ainsi que la traçabilité des actes du commissaire de justice de façon à prémunir le système judiciaire et les justiciables contre les risques de production et de circulation de faux actes publics.
Un ensemble de produits immobiliers situés à Marcory, zone 4C, appartenant à la SOTRA, sera cédé pour 7,9 milliards de francs CFA.
En effet, la société prévoit l'acquisition de sites pour la construction de nouvelles gares lagunaires et terrestres, ainsi que de nouveaux centres bus et terminus dans la zone de Benjerville, d'Anyama et de Sogon, en vue de consolider ses activités et d'impacter davantage la qualité de la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan.
Le Conseil a également pris un décret pour réglementer l'ouverture et la fermeture de boulangeries dans le pays afin d'obtenir une bonne qualité de pain.
Ce décret précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Aussi, il prévoit un organe chargé de la régulation du secteur.
À noter que la Côte d'Ivoire va avoir un nouveau nonce apostolique. Il s'agit de Monseigneur Mauricio Redabels.
L'ONG Vérité veut réunir les moyens de lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains. L'atelier de renforcement de capacité des députés sur les indicateurs de ce fléau organisé hier mercredi à Abidjan répond effectivement à cet objectif. Et à cette occasion, Touré Yakouba, vice-président de l'Assemblée nationale, a promis la construction de la chambre basse du Parlement ivoirien dans ce combat pour le respect de la dignité humaine au travail. On écoute Touré Yakouba.
Notre mobilisation aujourd'hui est la marque de notre appui aux initiatives nationales en vue de créer un monde meilleur pour l'équilibre des populations. La représentation nationale ne se dérobera pas. Elle jouera pleinement le rôle qui lui est sien. En effet, la Côte d'Ivoire, en ratifiant en novembre 2019 le protocole de 2014 relatif à la convention numéro 29 sur le travail forcé, a renouvelé son engagement envers les normes internationales du travail pour lutter de façon effective contre toute forme de travail forcé ou obligatoire. C'est dire que l'Assemblée nationale saura accompagner tout esprit qui œuvre pour l'équité et le respect de la vie humaine. Il est sans ignorer que les droits de l'homme sont constamment bafoués dans le milieu du travail et ce, dans de nombreux pays. Très souvent, ces abus sont restés impunis du fait de l'ignorance des populations de leurs droits élémentaires. Cet atelier est assurément le canal idéal par lequel les députés pourront aider l'ONG Vérité en tant qu'organisation à parvenir à un monde où le milieu du travail est dépourvu de toute forme d'injustice.
Voilà à l'instant Touré Yakouba, il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Dans le cadre du processus électoral, la superviseure des régions du Guaclé, de la Nahua et de San Pedro a échangé récemment avec les populations de San Pedro et de Tabou. Objectif de cette rencontre, présenter la liste électorale provisoire de 2023 pour des éventuels observations et réclamations. Des détails avec Benson Kofi, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
La présentation de la liste électorale provisoire, une étape du processus électoral. Une liste électorale provisoire présentée par Marguerite Yolibikone, superviseur de la Commission électorale indépendante CEI du district du Bassa Sandra.
L'objectif, c'était de présenter la liste électorale provisoire. Pour la région de San Pedro, nous avons un total de 192 440 inscrits sur la liste électorale provisoire et 20 radiations pour perte des droits civiques et politiques et 625 pour cause de décès. Nos sont ouverts pour recueillir les réclamations sur 10 jours. Ensuite, les observations sur ces réclamations sur 10 jours. Tout cela sera affiché. La commission électorale travaille dans la transparence et dans le cadre légal.
Une occasion pour Marguerite Yolibikone d'attirer l'attention des partis politiques sur leur contribution pour le bon déroulement des élections.
On a interpellé particulièrement les partis politiques parce que c'est eux qui ont intérêt à ce que la liste électorale soit propre, soit consensuelle et comporte ceux qui doivent y être. Le contribuable ivoirien leur donne de l'argent pour ça, c'est-à-dire d'informer leurs militants pour qu'il n'y ait pas de désinformation. Parce que tout commence par la liste électorale, tout se termine par la liste électorale. C'est là la campagne. Ce n'est pas le jour où on a dit la campagne est ouverte pour une semaine qu'ils vont commencer à courir. C'est maintenant. Il faut faire en sorte que vous ayez vos électeurs sur la liste électorale.
Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises de l'Université Félix Houphouët-Boigny ou Gepan Corner a été ouvert officiellement la semaine dernière et les activités du dit centre ont été lancées à travers une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en présence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Pourquoi ce centre et quel intérêt pour la Côte d'Ivoire? La réponse avec le directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, professeur Alban Aouré.
On remarque bien dans les données que l'un des obstacles majeurs à l'implantation des entreprises japonaises en Afrique, c'est les barrières linguistiques, les barrières de communication. Et ça se place au troisième niveau des obstacles. Comment lever ces barrières-là? C'est de créer une circonstance d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la culture pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir communiquer. Et c'est ce cadre-là que nous avons voulu offrir aux étudiants, aux chercheurs, aux universités, mais en même temps au monde du secteur de l'entrepreneuriat pour apprendre davantage et développer leur coopération avec des entreprises ou avec la société japonaise.
L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikatai Katsuya, qui s'est félicité de la réalisation de ce projet, a émis le vœu suivant.
J'espère que ce centre deviendra un lieu de manifestation, lieu d'animation, et même lieu d'études sur le Japon.
Aux bénéficiaires de ce centre, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Kobea Arsène, a dit ceci.
Le Japon est un pays très développé duquel nous devons beaucoup apprendre dans le domaine scientifique et technologique, surtout dans le domaine de l'innovation. Donc, aux jeunes étudiants, sensibilisation pour qu'ils viennent fréquenter le Japan Corner.
Ce centre premier du genre en Afrique de l'Ouest a été réalisé et équipé à un peu plus de 50 millions de francs CFA.
Oui, une page de religion dans ce journal avec l'édition 2023 du Hajj qui est le pèlerinage en terre sainte de l'islam. Et cette année, ce sont 10 000 candidats pèlerins qui partiront de la Côte d'Ivoire. Le premier vol charter du contingent étatique de pèlerins ont quitté Abidjan hier mercredi à 21h40 avec à son bord 430 passagers. Confirmation donnée par le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara, qui a tenu à rassurer les parents qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que les candidats pèlerins bénéficieront de la plus grande attention tout au long de ce pèlerinage.
L'appel que nous lançons aux uns aux autres, c'est pour dire aux candidats au Hajj et de leurs parents d'être rassurés, d'être confiants que les candidats sont dans de bonnes mains. Nous leur demandons que lorsqu'ils viennent accompagner le pèlerin à l'entrée de la mosquée de la Rivière Golf, une fois que le pèlerin dépasse la barrière de sécurité, qu'il se retourne, qu'il rentre chez eux, le pèlerin est pris en charge par nos différentes commissions qui sont sur place et on fera tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'il monte dans l'avion pour partir en Arabie Saoudite. Pour le Hajj 2023, le vol inaugural, le premier vol, commence avec 430 pèlerins et le vol est programmé décoller à 21h40. Il peut être à Dieu, 21h40. Nous avons 15 vols pour le vol charter du contingent étatique.
Et en tout, combien de pèlerins quitteront la terre de Côte d'Ivoire pour la Terre Sainte?
On a 10 000 qui vont partir, mais pour le contingent étatique, nous avons 7 000. 7 000, il y a 6 000 et quelques qui iront sur le vol charter et les autres voyageront par les vols commerciaux.
Voilà, c'était l'imam Bachir Ouattara, le commissaire du Hajj 2023. Il a été joint par Soro Adams. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, voisins, 4 militaires et 14 volontaires pour la défense de la patrie ont trouvé la mort lors d'un accrochage avec un groupe armé terroriste dans la région du centre-est, selon plusieurs sources sécuritaires. Les militaires qui étaient en opération ont réussi à neutraliser une soixantaine de terroristes et récupérer de l'armement et du bétail, selon les mêmes sources. Et cette région du centre-est du pays, frontalière du Togo et du Ghana, fait l'objet de harcèlement de la part des groupes armés terroristes depuis plusieurs semaines, en perturbant ainsi le trafic routier entre le Burkina Faso et le Togo. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Carlos Condé. Bonjour Carlos.
Bonjour César, bonjour à tous. Quatre actualités dominent la une de vos journaux ce jeudi. Radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Le PPACI à la primature nous apprend Fraternité Matin. Ce que répète l'intelligent d'Abidjan, une délégation du PPACI chez Patrick Hachi, Gbagbo en réclamation aujourd'hui. Après cette radiation, l'avenir dit que le PPACI se dégonfle et cherche à négocier. La voix originale annonce que le grand homme va parler au monde entier. Le président Gbagbo rend le silence aujourd'hui, mentionne le quotidien d'Abidjan. On lit en une, deux, le jour plus, le PPACI demande un autre dialogue politique. Après la sortie de l'évêque de Daloa, voici l'intégralité du message des évêques, écrit l'Inter. Un autre guide catholique charge fait savoir Génération Nouvelle. Un évêque ne parle jamais au hasard, lit-on en titre chez Le Nouveau Réveil. L'expression dévoile une corsée ce jeudi. En ces termes, l'église catholique prise en flagrant délit de mensonge. Le monde parallèle de l'évêque Marcelin Quadio dévoilé, écrit l'intelligent d'Abidjan. L'évêque et nous ne vivons pas dans le même monde. Des propos du porte-parole du gouvernement, repris en titre par Le Jour Plus. Le Bélier pense que Monseigneur Marcelin Yao paie le prix de la vérité. Pour Le Matin, le Vatican prend le contre-pied de Monseigneur Quadio. Conseil des ministres d'hier, ce que dit le gouvernement sur les rumeurs d'augmentation du coût de l'électricité indique l'Inter. Pour Dernière Heure Monde, le gouvernement confirme la hausse du prix de l'électricité. Et puis, éliminatoire de la CAN 2023, Zambie-Côte d'Ivoire, Gassé privé de 12 titulaires, titre Fraternité Matin, les éléphants sans alerte, Seko Fofana et Zaha observent Génération Nouvelle. Sur ce, à vos journaux. Et bonne lecture.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens avec Carlos Kouande. À présent, l'invité de la rédaction dans un rapport datant d'avril 2023, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement s'alarme du niveau d'endettement de 21 pays africains qui présentent un risque élevé de surendettement. Ces pays, selon la CNUSED, sont appelés à rembourser durant les années à venir des euro-obligations émises au cours de la décennie précédente. Quelles sont les conséquences de cette situation de surendettement sur le développement économique de ces pays? Dr Broudjandi Emmanuel, enseignant-chercheur en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, apporte des éléments de réponse dans un entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Docteur Broudjandi Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Comé.
Dans un rapport, la CUNCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, s'inquiète du niveau de surendettement de certains pays africains. Alors, le fait que la CUNCED insiste sur ce surendettement, est-ce qu'il faut s'alarmer? Est-ce qu'il y a un niveau acceptable? Il y a un niveau sur lequel il faut faire attention?
Bien évidemment, il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer. Quand on parle de surendettement, ça veut dire que la dette est trop excessive. Au point de laisser croire qu'en l'état actuel, les pays en situation de surendettement ne vont en outre mesure s'en sortir. Bien de pays ont contracté des dettes, donc se sont endettés, mais à la mesure du possible, ces pays arrivent à relancer leur économie. Mais lorsqu'on arrive dans une situation de surendettement, ça veut dire que le poids de la dette est tellement lourd, donc insupportable, et du coup, ça va de soi que l'on s'en alarme.
Alors, la même organisation des Nations Unies détermine 8 pays africains qui sont déjà en situation de surendettement et 13 autres présentent des risques élevés de surendettement. Quel commentaire pouvez-vous en faire déjà?
Mais déjà, il faut dire que ce n'est pas reluisant en ce qui concerne les pays africains. On est en train d'avoisiner un taux d'endettement qui dépasse largement les 50% rapporté à leur PIB, bien évidemment. Donc, il faut franchement s'en alarmer. Et ce n'est pas reluisant, objectivement, pour les pays africains.
Alors, quels sont les risques, justement, pour ces pays-là, quand ils sont surendettés?
Les conséquences sont plurielles. Déjà, lorsque vous êtes surendetté, ça va de soi que vos créanciers vous recommandent de venir honorer vos engagements. Et si les créanciers vous demandent de venir honorer les engagements, il faut bien évidemment que vous ayez les moyens et le potentiel requis pour être à la hauteur de ces engagements. Ça, c'est la première réalité. Mais dans une situation d'un État surendetté, on se retrouve dans un cercle hyper vicieux où la personne ou bien l'État en question se retrouve toujours dans l'incapacité de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers qui peuvent être des opérateurs, bien évidemment, internes comme externes. Et finalement, le pays, jusqu'à preuve de contraire, ne peut pas faire preuve de souveraineté aussi bien à la dimension économique, même à la dimension juridictionnelle, puisque les autres qui sont vos créanciers sont toujours en mesure de recommander à ce que vous puissiez faire face à ces charges, bien évidemment, et c'est leur droit.
Alors, mais donc, le citoyen africain peut se poser la question, les citoyens de ces pays-là peuvent se poser la question, quelles sont les causes de ce surendettement-là?
Pour répondre à cette question, il faut déjà partir sur la genèse de l'endettement. Il faut reconnaître que les pays africains dont on parle, à l'origine des indépendances, ces pays ont objectivement fait preuve d'une insuffisance de l'épargne interne. Donc, ces pays ont eu recours à des financements privés ou étrangers. Maintenant, d'où vient la réalité de leur incapacité à honorer ces engagements? Le véritable problème, c'est que ces pays ont contracté des dettes publiques. Et dans la dimension des dettes publiques, les pays ont bénéficié de ces capitaux, mais n'en ont pas fait usage de sorte à ce qu'il y ait un plan d'amortissement de ces dettes qui permettait à ce que, à l'échéance, ces dettes soient amorties. Je vous prends l'exemple. Si vous bénéficiez, par exemple, d'un montant de 10 milliards pour financer des projets
qui relèvent de fonctions purement régaliennes de l'État. Par exemple, construction d'écoles. Quelle est la portée en termes de retour sur investissement en ce qui concerne la construction des écoles? C'est-à-dire que les premiers bénéficiaires, ce sont les élèves, vont commencer à être rentables 20 ans plus tard. Il fallait objectivement que les négociations s'apparentent au retour d'investissement et à la date d'échéance à partir de laquelle l'investissement commence objectivement à être productif. Les dettes contractées n'ont pas été à la source des investissements qui étaient rentables à la dimension de leur date d'échéance en termes de rentabilité les premières années où on attendait les amortissements.
On présente certains pays qui sont dans l'Afrique australe, notamment des pays comme la République du Congo, le Malawi, Mozambique, Sao Tomé et Principe, le Soudan, oui, la Zambie, Soudan, pour oui. Les pays justement surendettés. Et puis, ceux qui présentent des risques, il y a des pays comme le Cameroun, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, le Comores, l'Éthiopie même, et le Ghana voisin. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas citée dans ces pays à risque d'endettement ou surendettés. Alors, quelles ont été les recettes de notre pays?
Dans le lieu, moi, il y a les critères de convergence qui ont recommandé que le taux d'endettement ne devrait pas excéder les 70%, mais la Côte d'Ivoire est largement en deçà, avoisine les 50%. Maintenant, il faut reconnaître que pour que l'activité économique puisse avoir des retombées positives en termes de revenus, il faut d'abord qu'il y ait une stabilité politique, une stabilité économique, et puis il faut avoir un environnement économique attrayant. Et ça, il faut reconnaître que les pouvoirs en place ont pris les dispositions pour que cet environnement économique ne souffre objectivement d'aucune insuffisance. Il peut en avoir, mais quand même est satisfaisant.
Merci à vous, Dr. Brou Djangi Emmanuel.
Je vous remercie, M. Komé, et à la prochaine.
Voilà, Dr. Brou Djangi Emmanuel, enseignant-chercheur en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, était avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 juin 2023, a adopté la position de sticker par les commissaires de justice sur les actes qu'ils produisent, l'extension des activités de la Sautra et la réglementation de la profession boulangère. Dans cette édition, vous avez entendu le compte-rendu de Carlos Okwande. Le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises de l'Université Houphouët-Boigny, ou Japan Corner, a été ouvert officiellement. Une constance d'apprentissage de la langue et de la culture pour s'ouvrir et communiquer avec le monde extérieur est en vue. Enfin, dans l'actualité internationale, au Burkina Face aux voisins, 18 morts, dont 4 militaires dans une attaque terroriste dans la région du centre-est du pays. Et voilà, c'est la fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.